Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 14 février, le Parisien consacrait un dossier sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'organisme en charge de suivre et de placer des enfants qui ne peuvent plus rester dans leur famille. Depuis des années, l'ASE traverse une crise profonde, incapable d'aider tous les jeunes en difficulté. Des éducateurs dénoncent le manque de moyens et l'abandon de l'État. Selon un rapport de 2021, près de 400 000 jeunes bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, un nombre qui augmente chaque année. Hakan Marty, 31 ans, fut l'un d'entre eux. Il a grandi dans une famille d'accueil, puis dans un foyer, avant de devenir lui-même éducateur. Pour Code Source, il raconte son parcours au micro d'Ambre Rosala.
Hakan Marty vient d'emménager à Annecy, en Haute-Savoie, mais il est originaire de Normandie, où il est né le 15 avril 1992. Sa mère est une ancienne enfant placée par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Elle a grandi avec les Raquins, une famille d'accueil de Darnétal, un village près de Rouen, et elle continue de leur rendre visite très régulièrement après sa majorité. À la naissance d'Hakan, elle est dépendante à l'héroïne et n'a pas de domicile fixe. Il est alors placé en pouponnière quand il a 3 mois, et sa mère le confie régulièrement à la famille Raquin.
Quand je suis né, ma mère n'était pas du tout capable de s'occuper de moi. Et en fait, j'ai été placé quasiment dès ma naissance. Sauf que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me récupérait à la pouponnière. Elle m'embarquait dans la famille d'accueil sans autorisation parce que j'étais pas officiellement placé chez eux. Mais du coup, c'était un peu son lieu secours, son lieu où elle se sentait bien. Donc elle me laissait là-bas. Elle m'embarquait avec elle dans les lieux où elle vivait. Et dès qu'elle pouvait plus du tout me nourrir ou qu'elle avait d'autres choses à faire, elle me relaissait dans la famille d'accueil. Puis à force, les services de l'aide sociale à l'enfance m'ont placé dans la famille d'accueil en question à 1 an et demi. Et j'y suis resté jusqu'à mes 15 ans.
Hakan appelle Monsieur et Madame Raquin, le couple qui s'occupe de lui, tonton et tata. Ils vivent dans une maison avec un grand jardin où ils s'occupent de 4 enfants de l'aide sociale à l'enfance, dont Hakan. Ils ont eux-mêmes des enfants et des petits-enfants qui vivent avec eux ou qui leur rendent visite régulièrement.
Tu vois une différence entre les enfants de la famille d'accueil et toi quand tu rentres de l'école et que eux sont allongés dans le canapé, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent à la télé, toi t'as pas le droit, quoi qu'il arrive, de toucher à la télé. Tout ce qui était Nutella, Fanta, Coca, ils en prenaient, nous on n'avait pas le droit. Quand il y avait un bon bulletin, ils donnaient un peu d'argent. Et je m'en rappelle qu'une fois j'avais travaillé comme un dingue pour avoir un bon carnet, et je suis revenu à la maison en même temps que ces petits-enfants. Enfin, j'ai vraiment eu un bulletin excellent et ils m'avaient donné 2 euros. Et le petit-fils avait eu un bulletin qui était bien, je ne veux pas dire qu'il n'était pas bien, mais qui était bien, et il a eu 100 euros. À Noël, eux, ils avaient le salon entier rempli de cadeaux pour eux, et toi, tu avais 1 ou 2 cadeaux. Quand tu es enfant, tu ne comprends pas cette différence. C'est violent à vivre, et tu sens que du coup, tu n'es pas vraiment à ta place.
L'éducation que reçoit Hakan est très stricte, mais malgré ça, il se prend d'affection pour le couple qui l'accueille. Il sait que ce ne sont pas ses parents, mais il les considère comme sa famille.
Tata avait perdu son fils... Et je crois qu'il y a eu un transfert par rapport à moi. Et j'ai l'impression que je représentais pour elle l'enfant qu'elle avait perdu et puis cette figure masculine à la maison alors que j'avais 9-10 ans, quoi. Et après, à l'inverse, elle voulait pas que je dise « je t'aime ». Il n'y avait jamais de marque d'affection de sa part. Il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de mots tendres. c'était des actions que j'allais récupérer. C'était tout bête, mais il y avait la nounou d'enfer avant. Et elle me disait, monte dans la chambre. Et du coup, je pouvais regarder au bout de son lit avec elle. Ou il y avait la série Zorro que je regardais aussi avec elle. C'était plutôt ça, les signes d'affection.
La mère d'Akan donne naissance à 4 autres enfants, 3 garçons et 1 fille, qui sont placés dans d'autres familles d'accueil. Et sa mère rend parfois visite à Akan.
La relation que j'avais avec ma mère était spéciale parce que je l'idéalisais. On m'a fait faire le catéchisme quand j'étais enfant, et du coup, je percevais ma mère comme un peu la Vierge Marie. Quand je l'avais en image dans ma tête, c'était avec une lumière, enfin, voilà. Et je la voyais très très peu. Je l'ai vue que quelques fois. Et dans les fois où je l'ai vue, c'était une fois où il y avait ma petite sœur qui était là, et donc elle s'occupait de ma petite sœur. Une autre fois où elle s'est fait poursuivre par des hommes dans la rue, et j'entendais des hommes l'insulter et puis vouloir la frapper. Donc ma mère, je savais que c'était ma mère, mais dans les actes quotidiens, en fait, je savais pas ce qu'était ma mère.
Akan fête ses 8 ans en avril 2000. 3 mois plus tard, en juillet, Madame Raquin vient le voir pour lui dire que sa mère est décédée.
Je revois Tata devant moi me dire « Akan, il faut que je te parle. » Et elle me dit « Ta mère est morte. » Il y a eu un blanc. Et en fait, elle est partie et je suis resté dans la chambre et j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'elle était absente, ma mère, donc au final, ça restait la même chose. Et je me revois à penser à savoir si je devais pleurer, pas pleurer, et à chercher ce que je devais dire. Et en fait, on n'en a plus jamais reparlé après.
Personne ne dit à Akan comment sa mère est morte. L'année d'après, en avril 2001, Monsieur Raquin meurt brutalement d'une crise cardiaque. Akan a 9 ans. Madame Raquin tombe en dépression, et c'est l'une de ses filles qui prend le relais pour s'occuper des enfants placés.
On est passé dans une vie, quand j'étais, c'est des images d'enfants, mais qui étaient plutôt agréables, à quelque chose d'assez compliqué. On m'a demandé de tenir un rôle d'homme. J'avais interdiction de pleurer, parce qu'on n'avait pas le droit en tant qu'homme. En gros, les hommes devaient être forts et puis avoir un métier d'homme. Et puis les filles qui avaient à la maison, il fallait qu'elles fassent les tâches ménagères. Enfin voilà, c'était assez stéréotypé. Et à ce moment-là, moi, je ne voyais pas que je vivais de la violence. Alors je souffrais, ça, j'en étais conscient. Quand on parle de violence, violence physique, coup de poing, coup de pied, violence psychologique. Alors, on m'insultait de bougnoule, on m'attaquait par rapport à mon prénom, du fait que je m'appelle Akan et que c'était pas français. J'ai été enfermé pendant des heures et des heures dans la chambre. On n'avait pas le droit de parler à table, par exemple. On n'avait pas le droit de regarder la télé, alors qu'ils regardaient la télé pendant qu'on mangeait, mais nous, on n'avait pas le droit. Et si on regardait, c'était un coup de couteau, un coup de fourchette ou une claque. C'était ultra violent. Ce qui était assez ambivalent de ma part à cette période-là, c'est que je les aimais et donc pour moi, c'était normal ce qui se passait.
Madame Raquin aussi est violente avec lui. Elle le punit très souvent et il doit parfois recopier des milliers de lignes pendant des heures. Les claques et les coups de fouet sont quotidiens. Le soir, pour s'endormir, Akan se met à se bercer tout seul. Il tourne sa tête vers la gauche, puis vers la droite, tout doucement.
L'acte en lui-même me permettait de m'endormir. J'avais pas de doudou, on n'avait pas de tétine quand j'étais enfant, je me souviens bien. Et en fait, quand j'étais pas bien, je tournais la tête, mais tous les soirs, tout le temps. J'avais besoin de ça. Ça m'apaisait, ça me calmait. Et ça me permettait de m'évader dans ma tête et d'oublier ce qu'il y avait autour de moi.
Quand des visites de contrôle par l'aide sociale à l'enfance sont programmées, la famille d'accueil demande à Akan et aux autres enfants placés de ne rien dire des violences qu'ils subissent.
La famille d'accueil me décrivait les services sociaux comme des gens horribles et qui allaient me mettre dans des foyers où j'allais être frappé, où on allait me voler mes affaires, qu'on n'allait pas me donner d'argent. Au final, c'est ce que je vivais à la maison, mais on me décrivait ça de l'extérieur. Et j'avais peur de perdre aussi cette famille. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'eux qui existaient. C'est que l'extérieur, comme je ne le connaissais pas et qu'on me montrait un tableau qui était horrible, en fait, mon assurance-vie, elle était dans cette maison-là. Donc, pour ma part, je pensais que j'allais souffrir en les quittant.
Akan entre au collège et Madame Raquin tombe malade d'un cancer. Elle est très affaiblie et Akan se met à s'occuper d'elle au quotidien. La violence et les punitions continuent et en quatrième, il tente de mettre fin à ses jours.
Au collège, voilà, c'était difficile. J'étais dans un collège qui était compliqué. J'avais cette pression où il fallait que je réussisse. À la maison, dès que je rentrais, c'était des crises, c'était de la violence. Le week-end, j'étais puni. Enfin, je voulais ne plus souffrir. Et en fait, Tata avait une fameuse boîte remplie, une sacoche remplie de médicaments. Et je me suis dit, c'est bon, je veux partir en paix, mais je veux être apaisé à l'intérieur, j'en peux plus. Je sais même plus ce que j'ai pris, mais j'ai enchaîné les médicaments. Et j'ai eu un élan de lucidité où j'ai pris peur et je me suis dit, je veux pas mourir. Je voulais vivre. Et donc j'ai couru voir Tata pour lui dire.
Akan survit. En 2007, Madame Raquin est trop affaiblie par la maladie et elle demande à ce que les enfants placés chez elle lui soient retirés parce qu'elle ne peut plus s'en occuper. Le 3 juin 2007, Akan, qui a 15 ans, quitte sa famille d'accueil pour être placée dans une maison d'enfants à caractère social, une sorte de foyer.
Je suis arrivé au foyer, j'ai été accueilli par un éducateur. Et puis, je me suis bercé ce jour-là, énormément, parce que c'était dur le changement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'étais bien au foyer. De pouvoir regarder la télé comme ça, de pouvoir faire un baby-foot avec quelqu'un sans que ça crie, de pouvoir prendre un goûter dans le placard sans te faire frapper parce que ils sont pas du tout d'accord, de pouvoir juste aller au cinéma avec des amis, ça a été une énorme découverte pour moi, ça, ces moments-là. Mais du coup, j'étais en décalage avec tout le monde parce que pour moi, c'était des choses qui étaient folles. C'était normal pour les trois quarts des gens que je côtoyais. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. Quand les éducateurs me disaient « Tu fais quoi cet après-midi? Tu sors ?» Et les premières fois, je me souviens bien, je ne savais pas quoi répondre. Parce que je ne savais pas que j'avais le droit. Donc, plein de petits détails du quotidien, on se rend compte qu'il y a plein de belles choses à vivre. Et ça, ça m'a effrayé au début. Et après, j'ai croqué à pleines dents cet espace de liberté. Tous les soirs, j'allais jouer sur le terrain de foot avec d'autres jeunes ou avec les éducateurs. Et je me sentais super bien. Enfin, je pense que j'ai commencé à vivre. Alors qu'avant, c'était plus le mot survivre.
Le foyer accueille des dizaines d'enfants et d'adolescents de tous âges, divisés en différents groupes. Akan vit au quotidien avec 12 jeunes, âgés de 9 à 16 ans.
C'est pas des histoires drôles quand on est placé. C'est toujours une histoire compliquée derrière. Et quand on entend parler de violence, de viol, c'était le côté où je trouvais ça difficile. Je voyais ceux qui rentraient en famille, quand ils revenaient, les comportements pouvaient changer. Un appel téléphonique, je pouvais avoir des comportements changés. Enfin, l'impact que ça avait. Et quand tu vis à une dizaine de jeunes sur un groupe avec tous des problématiques à longueur de temps, c'est pas simple du tout. Ton quotidien, il est particulier quand t'as 15 ans. Tu te dis, mais j'ai rien demandé. Je suis né, j'ai pas demandé mon histoire familiale. Tu subis, en fait, le cours de la vie. Quand tu prends un peu de recul, tu te dis, waouh, c'est lourd quand même.
Akan entre au lycée, puis il obtient son bac. Au foyer, l'une de ses éducatrices lui a conseillé de passer son BAFA pour devenir animateur, et c'est ce qu'il fait. Il espère qu'à sa majorité, l'aide sociale à l'enfance va lui proposer un contrat jeune majeur qui lui permettrait d'avoir une aide financière. Le 15 avril 2010, Akan fête ses 18 ans. Peu après, il a rendez-vous avec une inspectrice de l'ASE qui lui annonce qu'il n'aura pas de contrat jeune majeur.
J'étais en terminale et on me dit l'année prochaine, ça va être fini, quoi. Et là, je vois un mur blanc devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, moi, je me suis senti seul, quoi. Seul face à l'avenir, seul face à ce monde qui est effrayant. Et puis moi, on m'avait pas du tout appris tout ce qui était, j'en sais rien, moi, la mission locale, le pôle emploi, tous ces trucs-là. J'avais aucune idée de ce que c'était. Donc à 18 ans, je me retrouvais face à moi-même avec ce qu'on m'avait appris de la vie. Et voilà, donc tu te sens petit.
Akan quitte le foyer et emménage dans une chambre de 9 mètres carrés. Il travaille en tant qu'animateur scolaire, mais il a du mal à joindre les deux bouts. Il devient ensuite directeur de colonies de vacances. Un jour, lors d'un séjour, une collègue animatrice lui dit qu'il devrait devenir éducateur spécialisé et travailler dans des foyers avec des jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
Et moi, c'était impossible. Venant de foyers, venant de familles d'accueil et avec un quotidien où justement je côtoyais des éducateurs pendant une période, c'était pas possible que je sois à leur place. Mais cette phrase-là a fait écho et je me suis dit, pourquoi pas, t'es animateur, t'es directeur. T'as des compétences, mais en plus, je voulais aller plus loin dans mes connaissances pour accompagner ce public-là. Dans ma famille, personne n'avait été diplômé. Dans la famille d'accueil, non plus. Et donc, j'avais une sorte de barrière symbolique que je devais affronter. Barrière financière aussi, parce que j'étais tout seul. Et donc, il fallait reprendre des études, il fallait payer. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bah, allons-y, pourquoi pas.
Hakan commence des études pour devenir éducateur spécialisé. Entre sa formation et son poste d'animateur, il travaille 7 jours sur 7. Il obtient son diplôme et commence à travailler dans des foyers. Il découvre l'envers du décor, avec des établissements où les éducateurs ne sont pas toujours aussi bienveillants que ceux qu'il a connus. Dans le même temps, il décide d'entamer une thérapie. Et au fil des séances avec son psychologue, il comprend que ce qu'il a vécu enfant, dans cette famille d'accueil qu'il aimait tant, était en fait de la maltraitance.
J'ai eu des chaleurs dans tout le corps. Parce que j'arrivais pas à y croire et parce que j'arrivais pas à dire que c'était de la maltraitance. C'était comme si je faisais du mal, moi, à cette famille d'accueil-là. Et après, je suis passé par une phase de colère où je me disais « Mais non, ils ont été maltraitants et c'est n'importe quoi. » Et puis après, j'ai essayé d'aller plus loin et de comprendre totalement ce qu'était la maltraitance et comment je pouvais avancer par rapport à ça. Et de pas reproduire ce schéma-là. Parce que quand tu étais habitué à ça, la reproduction, elle peut être très facile. Et puis de me dire, si un jour j'ai des enfants, est-ce que je vais agir comme ça? Est-ce que je vais être comme ça parce que je vais être frustré? Et tu te dis, bah, comment tu travailles tout ça? Comment tu t'avances? Le verbaliser, ça aide beaucoup. J'en parle avec beaucoup de facilité. Il y a beaucoup moins de tabous maintenant pour moi par rapport à ça, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps.
Après ça, Hakan décide d'écrire un livre sur son histoire. Et en écrivant, il se rend compte qu'il ne sait quasiment rien de l'histoire de sa famille. Et il décide de mener l'enquête.
Je me suis dit, on va commencer par la personne capitale dans cette histoire, qui est ma mère. Et je suis parti à sa recherche, à la recherche de son histoire. Et j'ai réussi au fur et à mesure à contacter les personnes et à remonter au fil du temps ses connaissances. J'ai découvert beaucoup de choses de sa personnalité et de sa manière de vivre. J'ai découvert comment elle a quitté ce monde. J'ai découvert qu'elle s'était faite assassiner. Elle aurait volé 50 kilos de cocaïne. Et puis, elle voulait garder l'argent pour s'occuper de ses enfants. Et voilà, elle est décédée très jeune. Mais j'ai voulu aller plus loin encore. Et donc, j'ai eu des liens avec ma grand-mère, avec la sœur de ma mère. Et ça a été jusqu'à l'arrière-grand-mère, où j'ai su que j'avais de la famille dans le sud. De comprendre l'histoire, ça m'a permis de me dire que j'étais pas juste un enfant placé. Et que du coup, j'avais une histoire familiale, donc j'avais une famille. Même si ça allait s'arrêter là, j'étais l'enfant de quelqu'un au final, hein, et ça m'a fait beaucoup de bien.
Dans ses recherches, Hakan apprend qu'en plus de sa mère, sa grand-mère maternelle a elle aussi été une enfant placée.
Quand tu sais qu'il y a des gens qui héritent d'un héritage culturel, d'autres qui héritent d'un héritage financier, d'autres qui héritent de valeurs, toi, le seul héritage que tu as, c'est cette histoire familiale de placement. J'ai eu honte au début. Puis après, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est leur histoire à elle, c'est pas la mienne, donc je peux pas influencer. La seule influence que je peux avoir, c'est moi et ma propre histoire. Donc si un jour j'ai des enfants, je vais tout faire pour ne pas qu'ils soient placés. Et de casser ça. Je peux changer le destin de ma famille.
Ambre, comme il le raconte à la fin de l'épisode, Hakan est parti sur les traces de sa mère et de sa famille. Il en a fait un livre, « Enfant mal placé », publié en 2021 aux éditions Max Milo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sait de son père ?
Alors, il a retrouvé qui c'était lorsqu'il a enquêté sur sa mère. Ils se sont rencontrés, Hakan a pu en savoir plus sur son histoire familiale, mais ils en sont restés là et ils n'ont pas gardé contact.
Tu parles beaucoup de la famille d'accueil d'Hakan. Est-ce qu'ils ont été rémunérés pour l'accueillir ?
Oui, être famille d'accueil, c'est un métier. Les personnes qui accueillent des enfants de l'ASE sont considérées comme des salariés des services du département. Et donc, le couple qui a accueilli Hakan a été rémunéré pour Hakan, mais aussi pour les 3 autres enfants de l'aide sociale à l'enfance qu'ils accueillent en même temps que lui. La rémunération dépend des départements, mais en général, pour un enfant, elle tourne autour d'un SMIC mensuel, donc environ 1700 euros brut par mois. Et s'il y a plusieurs enfants, il y a bien sûr des indemnités complémentaires par enfant, mais là encore, ça dépend des départements.
Hakan a 4 demi-frères et demi-sœurs. Eux aussi ont été placés dans une famille d'accueil. Est-ce qu'il les connaît ?
Oui, il les connaît. Ils se voyaient de temps en temps quand ils étaient enfants. Il y avait des rencontres qui étaient organisées par l'ASE. Mais c'est vrai que ça restait assez rare et donc ils n'ont pas vraiment créé de lien. Il a été en contact avec l'un de ses frères, Quentin, quand il est parti à la recherche de l'histoire de sa famille. Ils ont fait quelques recherches ensemble. Mais au-delà de ça, il n'est pas vraiment resté en contact avec ses frères et sœurs.
Merci, Ambre Rosala. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous vous proposons aussi deux autres podcasts, Crime Story avec une affaire criminelle à retrouver chaque samedi, et Le Sacre, notre nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques, avec un nouvel épisode chaque mercredi.